France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. L'extrême droite dans la rue ce samedi pour rendre hommage à l'un des siens, Quentin Redanque. Nous irons sur place prendre le pouls de la mobilisation. Un salon de l'agriculture grimaçant pour les éleveurs, privés de leurs bovins et en colère contre le gouvernement. Enfin, Donald Trump, acculé sur les droits de douane après la censure de la Cour suprême, la Maison Blanche trouve de nouvelles solutions. Antifa, assassin, l'extrême gauche tue, on est chez nous et justice pour Quentin. Les slogans des 3200 manifestants d'extrême droite à Lyon ce samedi, rassemblés pour rendre hommage à l'un des leurs, Quentin Derenque, mort le 14 février dernier après avoir été roué de coups dans un affrontement entre militants identitaires et antifascistes. Dans les rues cet après-midi, beaucoup de visages dissimulés derrière des masques et des lunettes noires. Christophe Vincent, bonsoir.
Bonsoir Valentin.
Correspondant de France Culture à Lyon, le cortège a terminé sa route. Quelle était l'ambiance de cette manifestation sous haute surveillance ?
Bien, juchés sur un camion, des amis de Quentin Derenque et des militants nationalistes se sont succédés au micro pour désigner les responsables, les députés insoumis Rima Hassan, Raphaël Arnaud, tout comme Jean-Luc Mélenchon, et ils ont nommé leur complice, selon eux, Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. Dans le cortège, de nombreux militants identitaires, tous vêtus de noir, mais aussi des personnes venues spontanément, comme cette Lyonnaise.
J'ai été bouleversée par la mort de Quentin. Et puis je crois aussi qu'il faut arrêter d'avoir peur, arrêter de ne pas vouloir s'exprimer, faire la politique de salon. C'est important d'être ici. On essaie de nous museler, on essaye de nous faire peur. J'ai failli ne pas venir, mais non, il faut être là. Il faut aussi soutenir cette famille. C'est terrible.
Un peu plus loin, Jackie, 74 ans, un militaire à la retraite venu de l'Ain.
Ce qui m'amène ici, eh bien, c'est la désolation de cette jeunesse qui s'entretue. J'ai un fils qui est militaire, je le protège. J'ai un fils qui est professeur de sport, je le protège. J'ai des petits-enfants et je les protège. Je n'arrive pas à comprendre que ces barbares ont pu tuer un gamin de 23 ans. On peut se poser des questions dans la société où on est.
Les marcheurs sont arrivés il y a moins d'une demi-heure devant le 11 rue Victor Lagrange, où Quentin Derenque a trouvé la mort il y a une semaine. Ils ont déployé une grande banderole noire sur laquelle on peut lire « Adieu camarades », la manif est en cours de dispersion.
Christophe Vincent à Lyon pour France Culture. À Paris, ils étaient pour leur part 200 à 300 à réclamer justice pour El Hassen Diarra. Ce jeune Mauritanien est mort le 15 janvier dans un commissariat du 20e arrondissement durant sa garde à vue. Une vidéo du voisinage montre un officier de police lui assénant des coups de poing lors de son interpellation. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin et pour 10 jours avec des absents de marque. Aucun bovin n'a été convié pour éviter une reprise de l'épizootie de dermatose nodulaire désormais maîtrisée. Cette édition est donc particulière pour les éleveurs Delphine Schiltz.
Dans les allées du hall 1, à moitié vide, on n'entend guère que des bêlements, pas de meuglement de vaches. Un spectacle qui attriste Mathéo, jeune éleveur en Gironde, amoureux du salon depuis le lycée agricole.
C'est vrai que c'est une année un peu particulière, le fait qu'il n'y ait pas de bovins. Les vaches amènent une attraction très particulière avec le grand public et facilitent énormément le contact. C'est un crève-cœur de voir ce salon sans nos vaches.
Au stand d'à côté, même constat.
Après, on sent quand même le soutien du grand public qui s'arrête, mais c'est beaucoup plus calme. Ça manque de charme.
Anaïs Gouzen représente sur son stand la blonde d'Aquitaine.
C'est une grande vache avec un long corps. Elle a très peu d'ossature et des toutes petites cornes.
La race n'est présente qu'en photo. Un choix logique et raisonnable après l'épidémie de dermatose nodulaire qui a touché beaucoup d'éleveurs du sud-ouest, estime la technicienne.
Ça n'a pas été évident, étant donné qu'il a fallu vacciner les troupeaux, que certains ont dû abattre. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est passé, ça va mieux.
Hier, la ministre de l'Agriculture a annoncé la fin quasi totale des restrictions liées à cette maladie contagieuse. Mais dans les couloirs du salon, le spectre d'un retour de la maladie au printemps et des insectes qui la propagent inquiète les agriculteurs, même ceux épargnés pour l'instant comme Jérémy Guillemet, éleveur dans le Maine-et-Loire.
On surveille parce que ça fait peur, c'est sûr. Après, on surveille aussi plus largement que ça parce qu'il y a d'autres maladies que la dermatose, il y a aussi la FCO, c'est la fièvre catarrhale.
Ce matin, la Confédération paysanne, qui n'a pas souhaité rencontrer Emmanuel Macron, a dénoncé, je cite, la stratégie d'abattage mortifère du gouvernement, qui n'a pas fait d'annonce sur la gestion des futures crises sanitaires, a déploré le syndicat.
Delphine Schiltz. Le remaniement était attendu, lui, pour ce dimanche et ce ne sera qu'au milieu de la semaine prochaine au mieux. Sébastien Lecornu veut attendre la mise au vote à l'Assemblée nationale d'une nouvelle motion de censure du Rassemblement national. Trois ministres sur le départ au moins, Rachida Dati à la culture, Charlotte Parmentier-Lecocq à l'autonomie et aux personnes handicapées. Amélie de Montchalin au budget partira, elle, demain pour prendre la tête de la Cour des comptes dès lundi. Aux États-Unis, le symbole de la politique commerciale de Donald Trump en plein imbroglio juridique. La Cour suprême américaine a annulé hier une grande partie de ses droits de douane contestant la validité légale de cette mesure. De quoi ouvrir la voie à des milliards de dollars de dédommagement en faveur d'entreprises déjà taxées. Mais certains droits de douane sectoriels restent en place et la Maison-Blanche a déjà riposté avec une nouvelle taxe de 15% justifiée par d'autres motifs juridiques. Problème, cette mesure est temporaire. Explication de Lorik Henton, maître de conférence à l'université de Versailles. Il était l'invité de France Inter ce midi.
C'est juste une partie des droits de douane qui est retoquée, en gros temporairement, le temps que, comme on l'avait déjà vu lors du premier mandat de Trump, ils réécrivent sa copie. Ils l'avaient fait sur l'immigration en 2017. Donc ils ont réécrit en basant sur quelque chose d'autre. Donc là, ce sera sur une autre loi. Et là, ils seront dans les clous. Mais le problème, c'est que ce qu'ils voulaient faire, c'était une politique qui était pérenne. Et ils voulaient faire vite et un peu n'importe comment. Donc ça, c'est un peu heurté à la Cour suprême. Et là, le problème, c'est que ça va prendre plus longtemps parce qu'il faut faire des enquêtes. Bon, on sait déjà comment elles vont se terminer, ces enquêtes. Mmh. Hein. Mais on sait aussi que c'est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire des droits de douane pour plus de 150 jours.
Et cette décision de la Cour suprême, c'est aussi l'histoire d'un revirement pour des juges majoritairement conservateurs. Sur les 9 sages, 6 ont voté l'abrogation partielle des droits de douane, dont 3 juges républicains. Une attitude antipatriotique et déloyale à l'égard de la Constitution, a estimé Donald Trump. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Cette décision vient questionner la politique économique de Trump dans son propre camp. 2 lectures différentes se dégagent parmi les républicains.
Oui, en choisissant 15% de taxation désormais, Donald Trump n'entend laisser aucune marge de négociation devant les réactions politiques, y compris en interne. Donald Trump accélère une nouvelle fois et va au maximum de ce que lui permet la loi. 15% de taxation, donc, pour l'ensemble des échanges commerciaux, tout pays confondu, comme s'il fallait effacer au plus vite le revers infligé à sa politique commerciale, car cette décision de la Cour suprême a été saluée par une partie des républicains. Ses tarifs douaniers, je cite, cette guerre commerciale est mauvaise pour les entreprises américaines. Elle fait augmenter les prix chez les ménages américains. C'est ce que souligne l'aile la plus libérale et anti-taxation dans son camp chez les républicains. Aujourd'hui, grand nombre d'entreprises commercent exclusivement avec la Chine ou le Vietnam. C'est notamment le cas de fabricants de jouets américains qui importent massivement depuis l'Asie. Du côté des supporters MAGA, l'aile inconditionnelle de Donald Trump, on dramatise la décision de la Cour suprême, un jugement outrageant qui favorise les mondialistes et le commerce déloyal. Voilà pourquoi Donald Trump accélère une nouvelle fois et passe de 10 à 15%, le maximum de ce que lui permet la loi pour ses droits de douane temporaires.
Laurent Kramer, correspondant de France Culture à Atlanta aux États-Unis. Et j'ajoute que ce soir, la France réagit. Le ministre délégué au commerce extérieur appelle à une approche unie de l'Union européenne. Le chancelier allemand Friedrich Merz réclame, lui, une position européenne claire. Enfin, il est minuit moins 85 secondes à l'horloge de l'apocalypse. Cette horloge symbolique, imaginée par des experts, évalue le risque d'une guerre nucléaire, toujours très réelle à cause de la guerre en Ukraine. Et s'il y a un pays qui a bien compris la menace, c'est la Suisse, le seul au monde à avoir prévu une place pour chacun de ses habitants dans un abri anti-atomique. Mais ces ouvrages hérités de la guerre froide vieillissent. Le gouvernement veut les rénover. Reportage de Jérémy Lanche.
Ici, vous voyez l'exemple type de ce qu'il faut surtout pas faire dans un abri. C'est en fait, ils ont installé un grand four pour faire de la poterie. Et donc ça, c'est formellement interdit.
Christian Sinigaglia ne connaît pas la crise. Sa société spécialisée dans la construction et la rénovation d'abris anti-atomiques croule sous les demandes. Il faut dire que les Suisses ont pris la fâcheuse habitude d'utiliser leur bunker comme une pièce supplémentaire de leur domicile.
Salle de musique, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle des kamnotze. Vous avez un petit bar et puis les gens viennent boire l'apéritif, jouer aux cartes. Donc les gens font un peu tout et n'importe quoi.
Mais même ceux qui ont été conservés en l'état ne sont plus adaptés aux menaces de 2026.
Les Américains ont développé des bombes qui peuvent pénétrer jusqu'à certaines profondeurs et ensuite exploser. Donc c'est vraiment de travailler sur une cellule qui, elle, résiste à toute déflagration, toute onde de choc.
En 2010, pourtant, les Suisses ont envisagé de mettre fin à l'obligation de construire un abri dans toute nouvelle habitation.
Les gens se sont rendus compte que ça pouvait arriver, même chez nous. L'Ukraine, ça paraît très loin, mais en définitive, à vol d'oiseau, vous êtes à environ 2000 km. Les gens se disent qu'effectivement, ces abris ont une vraie utilité.
Les Suisses ont aujourd'hui 370 000 bunkers sous leurs pieds. Près d'1 milliard d'euros vont être mobilisés pour en rénover une bonne partie.
Avant-dernière journée des Jeux Olympiques de Milan-Cortina et une pluie de médailles françaises, de l'or pour Émilie Harop et Thibaut Anselmet sur le relais de ski alpinisme, un doublé au biathlon sur la Mass Start. Julia Simon prend l'argent, Océane Michelon est sacrée championne olympique. La météo de ce samedi soir, nuageuse sur la majorité du pays, vigilance rouge crue maintenue pour la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime, de 7 degrés à Tarbes, à 13 à Marseille, 12 à Cherbourg. Ce journal a été préparé par Nina Malray et mis en onde par Éric Perruchot-Triboulet.